les amphis d'Amicus.
Dans cette édition spéciale, les étudiants de Master 2 de l'Université Paris Panthéon-Assas prennent la parole et partagent leur regard sur des questions juridiques actuelles autour du micro d'Amicus Radio.
Aujourd'hui, Orlane Petit, Fanny Amat et Chloé Bariol, encadrés par Laurent Pfister, nous parlent du jury populaire. Épisode 1, Histoire de jury populaire.
Au nom du peuple français, cet adage présent sur les décisions de justice rendues par nos tribunaux n'est pas illusoire. Il représente le changement de paradigme opéré en France dès la fin du XVIe siècle. Après les nombreux échecs de plusieurs réformes législatives, les parlements se présentent comme autorités dissidentes à la puissance royale, perçues comme arbitraires et liberticides. Dès lors, les destinataires de la justice changent. Ce n'est plus au nom du roi que la justice est rendue, mais bien au nom du peuple français, qui devient alors récepteur, mais aussi acteur de l'œuvre de justice. Pourtant, cette devise, érigée au rang de principe, se retrouve aujourd'hui menacée par l'introduction de la loi du 23 mars 2019 qui confie le jugement des crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion au cours criminel départemental composé de 5 magistrats professionnels. Peut-on raisonnablement penser que ces nouvelles juridictions viendront corriger les défauts du jury populaire, si tant est que l'on parvienne à les identifier clairement, ou qu'elles deviendront définitivement enterrer la participation du peuple à l'œuvre de justice ? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, nous réaliserons 5 épisodes. Le premier épisode reviendra sur l'histoire du jury populaire. Les 3 suivants analyseront les occurrences actuelles du jury populaire. Le second épisode sera centré sur les dispositions en vigueur et le troisième sera consacré à une analyse comparée du jury populaire. Enfin, le quatrième se concentrera sur les affaires marquantes et les difficultés liées à ce mode de jugement et sur la nécessité de le réformer. Pour terminer, cette série s'achèvera par un épisode consacré au futur, nous le verrons compromis ou non, du jury populaire, avec notamment la mise en place des cours criminelles départementales. Commençons tout de suite avec notre premier épisode, celui consacré à l'histoire du jury populaire. En effet, il apparaît indispensable de comprendre pourquoi une telle façon de juger a été mise en place pour comprendre pourquoi elle est aujourd'hui remise en cause. D'autant plus que cette remise en cause est assez controversée dans le monde du droit. Ce recul du jury populaire est analysé, par certains, comme une négation de la formidable avancée de la Révolution française qui, dans une période de fort changement, a permis une nouvelle fois de mettre le peuple au centre de l'œuvre de justice, en leur offrant la possibilité de se rencontrer, de débattre et de rendre une justice ensemble, par le peuple et pour le peuple français. Il s'agit donc de s'interroger sur l'avancée que le jury populaire constitue à cette période. Seulement, la tradition du jury populaire est en réalité bien plus ancienne. Déjà, sous l'Antiquité, le peuple participait déjà au rendu de la justice. Décortiquons les origines du jury populaire, puis analysons son évolution jusqu'à devenir ce qui aujourd'hui est en passe de disparaître. La Révolution française n'est pas le véritable point de départ de la mise en place des jurys populaires. Déjà, en Grèce, de nombreuses instances prévoyaient que le peuple participe activement au rendu de la justice. On pense notamment à l'Ecclésia, une forme d'assemblée du peuple chargée de voter les lois, ou bien à l'Élié, un tribunal populaire composé de 6000 citoyens dont les membres étaient déjà tirés au sort afin de rendre la justice. On retrouve des preuves d'une philosophie en faveur du jury populaire dans les écrits d'Aristote, qui écrit dans son ouvrage Politique « Un citoyen, c'est celui qui a le droit d'être jugé et de participer à l'assemblée du peuple. » On note une absence totale de juges professionnels dans ces instances. La justice n'était alors que le fruit de la volonté populaire. À Rome également, des vestiges d'une forme de justice populaire peuvent être observés. On retrouve les traces des jurys permanents, appelés « questiones perpetuae », composé d'un magistrat et de jurys non professionnels. Néanmoins, au Moyen-Âge, ce mouvement en faveur de la popularisation de la justice s'amenuit. Bien que le droit de se faire juger par ses pairs ne disparaît pas, on ne peut que constater sa perte de force avec la redécouverte du droit romain du XIIe siècle, notamment marquée par le digeste de Justinien. La professionnalisation des juges apparaît dès lors comme un idéal de justice. Le jury populaire s'affaiblit de plus en plus. C'était sans compter sur les idées révolutionnaires qui se propagent peu à peu, parmi lesquelles celle de la renaissance du jury populaire. Un nouveau souffle se fait entendre.
<t'en>
Dans un premier temps, abordons le jury populaire qui représente une garantie contre l'arbitraire. Avec la Révolution française, l'idéal de justice populaire renaît. On souhaite intégrer le peuple, les citoyens, dans les décisions judiciaires. L'objectif est en réalité de se débarrasser des injonctions royales et de rendre justice au nom du peuple français. Le juge professionnel constitue une menace, de par le pouvoir qui lui est donné. On craint alors une montée de l'arbitraire. Il faut les accompagner dans leur œuvre de justice, pour éviter les abus des juges à la manière de ceux déjà commis par le roi et fermement dénoncés dans les cahiers de doléances. Par la consécration du jury populaire, une nouvelle manière de juger se met en place. Et, comme un changement n'arrive jamais seul, la justice populaire s'accompagne de l'introduction du nouveau code pénal. Une véritable révolution judiciaire se réalise et se concrétise à la fin du XVIIIe siècle. Dans un second temps, abordons le jury populaire et son modèle anglo-saxon qui vient contrarier le modèle français du jury populaire. Si, comme nous l'avons évoqué, on constate un affaiblissement du jury populaire en France, au Moyen-Âge, ce n'est pas le cas pour certains pays voisins. En Angleterre, cette idée se renforce, avec la Magna Carta, complétée par la suite par l'Habeas Corpus Act de 1679, qui confirme l'idée d'un jugement par ses pairs. Naît alors le modèle du grand jury, puis celui du petit jury. La personne arrêtée est immédiatement traduite devant le grand jury, qui détermine si les charges sont suffisantes, puis elle est jugée devant le petit jury. La Révolution française s'inspira de ce modèle. Les accusés sont alors jugés devant le tribunal criminel par 12 citoyens, mais ils doivent auparavant comparaître devant le jury d'accusation, composé de 8 citoyens tirés au sort. Seulement, une telle logique anglo-saxonne ne saurait être appliquée telle quelle au système français, issu d'une tradition romano-germanique. Ainsi, dès l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte, le jury d'accusation qui correspond au grand jury souffre de beaucoup de reproches. Il est alors supprimé et remplacé par un collectif de 3 juges professionnels. Quant au jury de jugement, il va également faire l'objet de nombreuses critiques, mais va être préservé. On peut analyser 3 types de mesures, 3 types de changements. On va modifier les modalités de recrutement des jurés, modifier la procédure pénale criminelle, et enfin, dès le XIXe siècle, le jury populaire ne juge que les faits et les magistrats décident de la peine. Dans un dernier temps, représentons et voyons le jury tel qu'on le connaît aujourd'hui. Au fur et à mesure, le statut des jurés va évoluer et s'élargir. Les femmes obtiennent le droit d'être jurées en 1945, mais la vraie démocratisation du statut de juré ne se fait qu'après 1980. Auparavant, la sélection des jurés n'est pas si hasardeuse que le suggérait la pratique. Les préfets créaient leur propre liste dans laquelle les jurés étaient tirés au sort. Ce pouvoir, à part la suite, était délégué au maire. Puis cette présélection s'est progressivement raréfiée jusqu'à sa suppression totale en 1978. Dès lors, le tirage au sort des jurés se fait maintenant parmi l'ensemble de la population française, selon des conditions que Chloé Baruol nous détaillera dans l'épisode suivant, consacré aux enjeux actuels du jury populaire.
Cet épisode des Amphis a été produit par Amicus Radio, avec le soutien de la Fondation Panthéon Assas, qui encourage et valorise l'entrepreneuriat étudiant. Merci à la professeure Cécile Chenet et à Aubin Jupin pour leur aide précieuse dans la coordination de ce projet. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.